Alors, on va, je vais vous présenter juste un petit peu le plan du sujet. Donc, donner la vie, très optimiste, hein, effectivement, on s'était arrêté là au démarrage, mais il y avait une suite à donner la vie, trois petits points, mais on va voir les morts périnatales. Donc, c'est effectivement le sujet qui va être traité aujourd'hui, avec au départ une introduction sur cette antinomie vie-mort, hein, qu'on rencontre nous tous les jours dans le cadre de notre profession de sage-femme, donner la vie, parfois accompagnée de mort à la suite. Donc un contexte quand même historique et culturel que j'aime toujours en fait à parler, comment ça pouvait être conçu avant ou ailleurs, en dehors de notre société, notre civilisation. Alors la perte, qu'on appelle la perte effectivement, quelles sont ces morts périnatales? Après on va parler du deuil, qu'est-ce qu'un deuil effectivement? Et puis ce travail de deuil qu'on va enclencher sur ces pertes périnatales. Et puis pour nous, effectivement, sage-femme et autres professionnels, ou la famille en général, on va dire l'accompagnement de ce deuil périnatal. Voilà, en conclusion, je vous lirai juste le poème d'une maman. J'accompagnerai effectivement par trois photos un petit peu, effectivement, je dirais, suggestives dans le débat du jour. Alors là, on va commencer par la vie et la mort, hein. On va voir qu'effectivement, l'un et l'autre sont aussi proches que l'évocation de ce tableau, hein. Donc la vie, si l'on s'en tient à la définition du dictionnaire, ça représente un espace de temps qui s'écoule depuis la naissance, donc jusqu'à la mort. C'est l'existence humaine considérée dans sa durée. La vie et la mort ont toujours été antinomiques. Il est paradoxal, effectivement, aujourd'hui de traiter de la vie sur un sujet concernant la mort, mais l'un et l'autre sont intimement liés. L'accouchement est un passage, un état transitoire où les forces antagonistes de la vie et de la mort se disputent et se livrent un combat aux enjeux décisifs. Avant même la mise au monde, qui est la naissance reconnue et visible, s'est instaurée, puis s'est lentement élaborée, la toute première phase, c'est-à-dire la conception, qui est la véritable naissance cachée, protégée, invisible, mais déjà elle-même source de vie. Il arrive durant cette période appelée donc grossesse qu'un événement imprévu vienne interrompre le cours de cette vie cachée. Toute vie donc commence par une naissance. Mais il y a donc une vie avant cette naissance et aussi parfois une mort. La grossesse alors, symbole normalement de vie, échoue dans sa promesse de naissance. Ne pas faire naître devient échec, souffrance, renoncement. Donner la vie quand c'est la mort qu'on attend au bout. On le sait bien, nous de profession, effectivement, que la naissance est un pont conduisant d'un monde à l'autre durant ce voyage. On connaît, nous, la grande vulnérabilité de ce bébé qui se construit bien sûr dans le corps de sa mère, mais qui s'élabore surtout dans la pensée de ses parents, de sa fratrie, de sa famille. C'est l'espoir, ce bébé. C'est le symbole de la volonté de se perpétuer, une façon pour l'homme de dépasser son propre anéantissement, de revivre, de défier le temps. La sage-femme, elle existe depuis la création du monde, même si son appellation a changé. Elle était chargée d'accompagner les femmes enceintes, d'aider à l'accouchement. Mais ce qu'on sait moins, c'était elle aussi qui était appelée pour la toilette des morts. Elle était considérée comme le médiateur entre le monde des esprits, des vivants et celui des morts. Je vous raconterai juste, effectivement, pour imager cette demande entre ce passage vie et mort. Cette passeuse de vie que nous sommes, vie dans la vie-existence, mais vie dans l'au-delà aussi, il m'est arrivé effectivement d'accompagner dans cette démarche de passeuse de vie, et peut-être dans l'au-delà aussi. Donc il y a un an à peu près, j'ai mis au monde, aidé à faire naître une petite Juliette, dans un accompagnement à la vie qui a été très très magique avec les parents effectivement, puisque cette chance m'est donnée de pouvoir les accompagner du début à la fin. Et puis Juliette, effectivement, a été porteuse d'un syndrome, on va dire presque létal. Elle avait une amyotrophie spinale qui a été diagnostiquée à 6 mois de vie. Et effectivement, elle est née le 27 décembre 2004 et elle est morte le 24 décembre 2005. J'ai suivi effectivement l'évolution de cette maladie et le jour où elle a été hospitalisée, donc en face à l'hôpital des enfants pour ses derniers moments. Les parents ont absolument tenu à ce que je sois présente. C'est-à-dire qu'ils m'ont appelée, ils m'ont dit: Isabelle, c'est la fin, tu es venue pour sa mise au monde, on te demande de venir l'aider à passer dans l'au-delà. Donc j'ai fait cet accompagnement, effectivement, qui traduit bien, effectivement, notre rôle de passeuse, c'est-à-dire passeuse de vie, vie dans la vie actuelle, vie dans une autre vie, mais ils avaient besoin de moi comme témoignage de cette existence. Voilà. Alors. On va partir maintenant sur ce contexte historique et culturel. Comment ça se passe, comment ça s'évolue, comment ça se conçoit, effectivement, ces enfants qui ne sont pas nés, ces enfants qui ne sont pas venus au monde, et comment les cultures ont pu, effectivement, je dirais, les identifier, leur donner une place. Donc, chaque culture, c'est la fragilité de la mère et du bébé. Si un enfant meurt avant la naissance, comment donc s'accrocher à des souvenirs tangibles ? Actuellement, les fausses couches et enfants morts sont minimisés en Occident, où les parents s'attendent à ce que chaque grossesse leur donne un enfant vivant, en bonne santé et sans aucune anomalie. Mais qu'en était-il dans des époques ou des cultures donc différentes ? Alors, il faut remonter à l'origine des croyances universelles, où les peuples révéraient ce qu'on appelait la grande mère, qui était une divinité de la fertilité à l'origine de toute vie. Il y a plus de 2500 ans, les Grecs ont identifié les quatre éléments qui, selon eux, étaient essentiels à la vie. D'un côté, on avait l'air et le feu qui étaient mâles, et la terre et l'eau qui étaient femelles. La terre était donc l'élément principal, appelé aussi Gaïa dans la mythologie. Elle conçut seule et elle a donné naissance au dieu ciel Uranus. Leur union par la suite produisit la première génération de divinités. Ils pensaient que les enfants morts-nés étaient exclus donc de l'Hadès, le royaume des morts, et qu'ils erraient indéfiniment dans l'univers des ombres. D'une manière générale, l'Antiquité considéra la naissance et l'enfant comme déterminant une zone incertaine où tout est possible. La vie, dans toute sa plénitude, y côtoie en permanence la mort, et c'est souvent celle-ci qui a le dernier mot. D'où des rituels ambigus de rejet apparent, où la joie ne se manifestera que très tardivement après la naissance. Terre, mère et ciel, père, se répètent dans de nombreuses religions anciennes. Mais la grande mère avait aussi des incarnations beaucoup plus sombres. Elle présidait du seuil de l'expérience humaine, donc introduisait les nouveau-nés dans l'existence, et elle guidait aussi les mourants vers la vie après la mort. Elle était à la fois admirée et crainte, et souvent invoquée comme arbitre final de la survie d'un enfant, nouveau-né, ou de récolte menée à bon terme. De la même manière, la Morrigan, une divinité celtique qui était terrifiante, contrôlait la vie et la sexualité en même temps que la mort. Aizit, grande mère pour la tribu Yakout en Sibérie, vivait au ciel en écrivant le destin de chaque enfant dans un livre doré. Elle observait la naissance de tous les nouveau-nés et si c'était nécessaire, elle apportait leur âme du ciel afin qu'ils soient complets. Sinon, l'âme ne descendait pas et l'enfant mourait. Meskhenet, déesse de l'accouchement égyptien, était une sorte de sage-femme sacrée. Elle aussi déterminait, croyait-on, la destinée de chaque nourrisson. Les mères lui adressaient des prières particulières pour bien sûr avoir un enfant en vie. Son symbole était deux briques de terre cuite sur lesquelles les femmes s'accroupissaient pendant leur travail. Alors pour les Égyptiens qui ignoraient le péché originel, la vie et la mort étaient identiques. Ce sont des souffles transportés par l'air, pénétrant dans le corps, le souffle de la vie entrant par l'oreille droite et le souffle de la mort par l'oreille gauche. On arrive même à le traduire sur le tableau, à gauche est la mort, à droite est la vie. Dans la religion chrétienne, on va s'y intéresser un petit peu, eh bien c'est le baptême qui lave de la faute originelle et qui est indispensable au salut de l'âme. Or, le fœtus ou l'enfant mort-né, n'ayant pas eu le temps d'être baptisé, reste dans cette carence, dans l'incertitude de devenir de leurs âmes. Pour lui, pas de place au cimetière, pas de salut éternel, aucune reconnaissance. Il risque même de revenir tourmenter les vivants sous forme de feux follets ou d'oiseaux criant la nuit. Donc c'est pour combler cette lacune du Nouveau Testament que se créa au XIIIe siècle par Thomas d'Aquin un nouveau concept, celui des limbes. Endroit indéfini, indéterminé, ni le paradis, ni le purgatoire, ni l'enfer. On y mettait tous ces enfants, effectivement, nés sans vie, qui n'avaient pas eu cette sacralisation du baptême. Alors, chose aussi qu'on a essayé de, je dirais, combler en dehors de la création des limbes, par, effectivement, l'assermentation qu'avaient les sages-femmes de pouvoir ondoyer et donner le baptême, même intra-utérin, c'est-à-dire quand on sentait que l'accouchement dérapait, que les forces, effectivement, de la mort dominaient les forces de la vie et que cet enfant allait, effectivement, peut-être mourir à la naissance. Elle induisait effectivement un baptême, même intra-utérin, de manière à ce que surtout pas il aille dans ses limbes. Il fallait, pour cette reconnaissance et pouvoir effectivement, après avoir une place au cimetière, eh bien, il fallait qu'il soit baptisé, effectivement. Donc le concept de limbe des enfants aussi concorde en même temps avec la création de ce qu'on appelait les sanctuaires à répit, C'était un lieu saint qui servait à déposer le corps sans vie d'un de ce qu'on appelait à peine né, en attendant éventuellement que des signes de vie se manifestent sur ce corps inerte, mort effectivement, afin peut-être de pouvoir lui administrer le baptême pour sauver son âme. Alors c'était un artifice, parce que ces enfants morts, on les faisait bouger un petit peu, voilà, pour effectivement pouvoir les baptiser, en pensant qu'ils étaient revenus momentanément à la vie, mais au moins ils accédaient effectivement au paradis, quoi. Alors donc, on leur administrait le baptême pour sauver leur âme. Cet artifice d'une croyance en un fugace retour à la vie permettait donc de franchir à nouveau le seuil fatal en étant cette fois-ci baptisé. Les parents ne ressentent plus alors cette mort comme une punition. Ces lieux ont été très fréquentés entre le XIIe et le XIXe siècle. Voilà, maintenant on ne les fréquente plus du tout. Naissance des limbes et essor des sanctuaires à répit montrent une prise en considération du fait qu'il y a avec ces morts-là concomitance de deux moments, effectivement mort et vie, moments très proches. Alors il faut savoir que le concept de limbe vient d'être supprimé il y a à peu près 6 mois de ça par un dernier concile de Vatican II qui a enfin dit au bout de effectivement 8 à 9 siècles de pratique que ces limbes n'étaient peut-être pas un bon concept pour ces enfants nés sans vie, qu'ils ne concevaient pas effectivement de péché originel pour eux, ils n'avaient pas de notion de bien et de mal, et qu'on pouvait enfin leur octroyer le paradis sans passer par ces limbes. C'est bien. Progrès, 9 siècles quand même. Alors au Mexique, on dit que chaque étoile au firmament brille pour un enfant mort-né. Au Japon, certains temples bouddhistes se font lieu de mémoire pour les fœtus. En réalité, aucun n'y est enterré, c'est juste un champ de statuettes. Après un avortement, une fausse couche, une interruption de grossesse, une mort in utero ou même le décès d'un nouveau-né, chaque femme dont la grossesse s'est arrêtée peut acheter dans ce lieu une statuette pour se souvenir. L'importance du souvenir. Chez les Yoruba du Nigeria, les figurines de bois qui sont sculptées pendant la grossesse représentent le fœtus. Si jamais il vient à mourir, sa poupée est promenée, lavée, habillée en souvenir de l'enfant perdu. Au nord de la Thaïlande, les Karen, eux, pensent que c'est l'esprit de l'enfant qui décide combien de temps il doit vivre. Les parents ne devraient donc pas avoir le cœur brisé s'il meurt, parce que c'est son esprit qui a désiré cette vie courte. Il est dit que la mort est facile pour un enfant minuscule, parfois beaucoup plus aisé que le choix de vivre lui-même. Bien que les parents mettent souvent de nombreuses années avant d'avoir envie de vivre de nouveau une telle expérience. Un bébé Mélis, qui meurt avant 5 mois, on dit qu'il partage toujours, toujours l'âme de sa mère. Les habitants des îles trop brillantes dans le Pacifique Sud pensent, eux, que chaque nouveau-né est un esprit régénéré qui a choisi de revenir à la vie en traversant la mer depuis l'île des morts. En fait, beaucoup de tribus pensent que les bébés, avant et après la naissance, sont essentiellement des esprits d'enfants dont la prise sur la vie n'est pas très forte. S'ils meurent, leur âme s'envole et retourne vers le monde des esprits d'où ils viennent pour y prendre un nouveau départ. Vie et mort sont donc étroitement liées. L'existence ne serait-elle qu'un fil, un souffle, un passage ? Représentation du tableau, effectivement. Et effectivement, sur ce tableau, on voit ce cheminement vie-mort. Existence peut-être longue, courte, on ne sait pas. Alors, on va voir maintenant les pertes. Donc, quelles sont les morts périnatales ? On va avancer d'une image. Voilà. Alors, actuellement, il existe une personnalisation très précoce du fœtus par les explorations actuelles, échographiques, diagnostics anténatales et autres. Cette personnalisation va donner une image, donc souvent sexuée de l'enfant, très précise. Le fœtus alors est surinvesti dans sa représentation plus matérielle que psychique. La médicalisation de la grossesse fait que l'embryon et le fœtus deviennent très précocement des sujets observés durant toute leur vie intra-utérine. Les pertes pré- et périnatales qui surviennent à quelques semaines de gestation ou dans les jours précédant la naissance portent des noms. On va l'appeler d'abord fausse couche. C'est donc l'arrêt d'une grossesse. On dit qu'elle est précoce avant 12 semaines, ce qu'on appelle d'aménorrhée, donc absence de règles. Tardive, entre 12 et 22 semaines d'aménorrhée. Alors, il existe toujours sur ces fausses couches un fort sentiment de culpabilité, d'échec, la sensation toujours d'un châtiment d'une faute passée. L'incapacité à produire un bébé sain est souvent devant l'inexistence des raisons. La fausse couche reste quasiment toujours inexpliquée. L'interruption volontaire de grossesse se fait maintenant légalement en France avant 14 semaines d'aménorrhée. Elle est toujours une blessure pour toutes les femmes, cette interruption volontaire de grossesse, même si c'est volontaire. Et j'aurais une petite anecdote à vous transmettre. Ben, j'ai accouché le 4 février de cette année, une jeune maman d'un bébé. C'était une deuxième grossesse. Elle avait une IVG antérieurement. Et le jour de l'accouchement, elle m'a dit, elle m'a regardée avec intensité, elle m'a dit, tu sais, j'ai fait mon IVG il y a 2 ans, c'était un 4 février. Eh bien, il y a des réparations qui se font même sur des IVG, ça reste une cicatrice très profonde, toujours mésestimée de toute façon. L'interruption médicale de grossesse, quant à elle, concerne en fait une anomalie fœtale. Elle s'effectue à n'importe quel stade de la grossesse, peut-être même très tardivement, peut-être même au bout du terme. L'interruption médicale de grossesse, anciennement appelée thérapeutique, est autorisée en cas de péril grave pour la santé de la femme éventuellement, mais surtout s'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Alors elle induit quoi ? Elle induit la notion de responsabilité surtout dans l'hérédité de cette malformation et donc d'éventuelles répétitions pour les grossesses futures. On rencontre chez ces mères une baisse de l'estime de soi, un sentiment d'infériorité vis-à-vis des autres mères, beaucoup de honte et surtout beaucoup d'isolement. Dans l'interruption médicale de grossesse, le féticide est pratiqué. Alors, dans ce féticide, il y a une notion de condamnation à mort. En fait, on condamne son enfant à la mort par une injection, effectivement. Voilà. Alors, si après vous avez des questions sur le féticide, on pourra y revenir. Alors, la réduction embryonnaire. La réduction embryonnaire, en fait, se rend compte maintenant lors, effectivement, de grossesses multiples, souvent après un traitement contre la stérilité. On induit donc une grossesse multiple, 3 ou 4 enfants, et la maman, effectivement, se sent incapable de porter ces 3 ou 4 enfants. Donc, d'un côté, elle avait un désir accru de vie, et de l'autre côté, elle se trouve confrontée à un excès de vie qu'elle va vouloir réduire. Donc, effectivement, on va lui proposer l'élimination de 1, 2 ou 3, effectivement, embryons qu'elle porte. Et puis bien sûr, les morts in utero, ce qu'on appelle les morts in utero, je m'attacherai surtout à vous en parler de ces morts fœtales in utero. Elles concernent effectivement tous ces enfants qui vont décéder à un certain état, certain avancement de la grossesse. Les circonstances de la mort, bien sûr, surviennent toujours dans la mère et toujours en cours de transmission de vie. Dans la plupart des cas, en effet, pour la mère, la mort de l'autre, donc le bébé, survient au sein même de sa propre chair vivante. D'une part, les espaces sont alors imprévisiblement confus entre l'enfant mort et sa mère, et d'autre part, la mort, qui n'est ici aucunement dissociable d'une véritable perte d'une partie de soi, au plan physique comme au plan psychique, c'est une véritable amputation. L'univers fantasmatique n'échappe pas à l'épouvante d'avoir donné la mort au lieu de donner la vie, avec des doutes profonds sur la capacité ultérieure à refaire de la vie là où la mort était venue s'installer dans leur propre chair. C'est l'ambivalence d'avoir apporté un corps mort dans le ventre. Et on entend très souvent cette expression qui dit « je suis une tombe » quand on annonce un enfant sans vie. Le décès dans le ventre maternel est donc l'ambivalence entre vie et mort. Si la propre perception de la mort se trouve violemment confrontée avec le décès de son enfant dans son ventre, elle peut totalement sembler irréelle pour la mère, puisque son rôle de porteuse de vie est dramatiquement brisé. Donc son ventre fait alors office de tombeau. Alors un désir vite d'en finir, il faut me l'enlever, je ne peux pas supporter l'idée d'avoir un enfant mort dans mon corps vivant. Et puis surtout cette peur du regard des autres qui pourrait effectivement amener à justifier la raison de cette mort, ce sentiment effectivement de culpabilité très fort. Il va falloir s'en séparer de ce corps mort afin de pouvoir se projeter dans la réalité de la mort de son enfant. Dans la mort prénatale, il n'y a pas de vie partagée avec le disparu, mais une absence de souvenirs pour accrocher la mémoire. Les parents perdent le potentiel de cet enfant s'il avait vécu et toutes les projections faites sur lui dès sa conception. C'est l'effondrement de l'avenir dès avant le commencement du présent, sans possibilité de dire leur détresse, leur manque, sans issue de partage de leurs sentiments les plus déchirants. Et il y a une véritable confusion, je dirais, temporelle au moment effectivement de cette annonce et de l'accompagnement de ce décès. Et je me rappelle, pour illustrer un peu, une maman que j'ai suivie comme ça. Sur une grossesse qui allait très bien, un superbe bébé qui allait fort bien, un petit garçon qu'elle portait dans son ventre, plein de santé, plein de vie. Et il s'est trouvé que lors de cet accouchement, elle était totalement confuse, je n'arrivais pas à comprendre, le temps me paraissait, elle mélangeait tout, enfin, il y avait une confusion. Et elle a fini par me dire, 10 ans auparavant, la perte d'un enfant qui était un petit garçon. C'était une mort fœtale à terme, inexpliquée, qu'elle avait effectivement, je dirais, non induit en travail de deuil et qui était restée comme une vraiment, je dirais, un drame au fond d'elle. Suite à cette naissance, elle avait eu 2 filles, bien, bien portantes, mais c'était 2 filles. Et là, un schéma de petit garçon qui revenait réveiller 10 ans après ce souvenir effectivement non résolu. Et il y a eu une confusion temporelle réelle où elle a mélangé effectivement l'événement passé d'il y a 10 ans et l'événement présent de ce petit garçon qu'elle portait, quoi. Il y a donc bien un statut de vivant de l'enfant non encore né au-delà d'un certain nombre de mois de gestation. C'est bien parce qu'il ne jouit pas encore de la reconnaissance sociale de son existence en tant qu'être humain. De là, sa perte n'est pas perçue comme un authentique deuil. Ainsi, à l'inextricable souffrance de ce deuil s'ajoute la violence d'un silence social qui s'avère d'autant plus brutal qu'il nie parfois totalement la disparition de cet enfant. Il a donc fallu trouver un statut juridique au fœtus. La mort, alors actuellement, hein, c'est très récent, hein, ça date d'une circulaire de 2002, je pense. La mort périnatale concerne les décès d'enfants au cours de la grossesse ou à la naissance, légalement nés, vivants ou morts, après au moins 22 semaines d'aménorrhée ou pesant au moins 500 grammes. De ces enfants-là, ils seront légitimes sur un plan juridique. Il va y avoir inscription à l'état civil obligatoire, il va y avoir dotation officielle d'un prénom, inscription sur le livret de famille, par contre, dans la rubrique décès, il n'y a pas de rubrique né, puis décès dans le livret de famille, ils sont inscrits directement, effectivement, dans la rubrique décès, comme s'ils n'étaient jamais nés. Et puis, bien sûr, l'organisation aussi de funérailles. Il faut savoir que la mère peut bénéficier de la totalité du congé de maternité, que cette grossesse aussi sera prise en compte pour le calcul des congés maternité ultérieurs, mais que le père, lui, ne bénéficie du congé de paternité que si l'enfant est né vivant puis décédé, à partir donc de 22 semaines d'aménorrhée, ce qui correspond à peu près à 5 mois et demi de grossesse. Alors avant 22 semaines, qu'en est-il pour ce bébé qui décède ? Eh bien avant 22 semaines, c'est là l'horreur, c'est qu'il n'est rien, il n'est pas, il n'a pas, il n'existe pas, il n'apparaît pas, et on le considère comme un déchet humain. Il n'a pas de légitimité. Il y a une impasse alors physique à devoir faire le deuil de rien. Une infime frontière entre le rien et la personne. Ça se joue à un jour près. 21 semaines et demie, ben non, c'est un rien. 22 semaines, il est un enfant, né sans vie. La future mère a une représentation de l'enfant dans son ventre qui n'a rien à voir avec l'évolution réelle de celui-ci, quel que soit l'âge de sa grossesse. Tout réel, tout vivant qu'il soit, il ne continue pas moins à fonctionner comme un objet imaginaire. Pour elle, il est un enfant dans sa tête bien avant qu'il ne soit né. Et alors il existe là-dessus, donc sur ce bébé avant 22 semaines, un déni collectif total de leur existence, une absurdité d'un non-statut, d'un non-être, et alors surtout, surtout pour les parents, la menace d'un oubli. Pour tous les autres, ceux après 22 semaines, on retrouve tout de même ce qu'on appelle un déni social. Et on va très souvent entendre « il faut tourner la page »,« cette mort n'a pas de valeur »,« oh, il était tout petit, il n'était pas investi, on ne le connaît pas, tu ne l'aimais pas ». On entend toujours ces paroles-là, mais que ça vienne aussi du corps médical. Hein. D'où une absence de légitimité, je dirais ordinaire, à éprouver les souffrances qui habitent communément un deuil. Alors, le deuil, qu'en est-il de ce deuil ? On va parler du deuil en général et je vais le cibler sur le deuil, effectivement, sur ces pertes périnatales. Donc le deuil, comme vous savez, c'est l'ensemble des réactions que la mort entraîne chez les vivants qui restent, bien sûr. Alors le droit au deuil dépend étroitement de la validité de la perte aux yeux d'autrui. Si en effet celle-ci n'est pas perçue comme telle, si l'événement de vie n'est pas validé socialement comme donnant droit à la mise en marche d'un processus de deuil, cette dernière se voit privée de l'indispensable reconnaissance, donc communautaire, de sa perte. D'où les dégâts intrapsychiques profonds qui peuvent occasionner chez les parents la négation de l'existence d'un enfant mort-né ou mort trop prématurément. Il n'y a pas de deuil, comme vous le savez, sans rituel, c'est-à-dire sans témoin de la mort ou sans rupture marquée avec le processus routinier de la vie. La mort reste un désordre qui modifie le corps social et exige en échange un comportement très spécifique. Les rites de deuil ont été élaborés pour canaliser l'angoisse qui étreint les survivants. Ils régulent ces rites, ils réconfortent, ils apaisent. Le groupe tout entier participe à cette dynamique. Le traumatisme du deuil peut en effet se comparer à une blessure physique. Dès qu'elle survient, un processus de cicatrisation s'initie. Accompagner ce processus de cicatrisation est ce qu'on nomme le travail de deuil, dans un besoin de faire mémoire. Faire son deuil correspond donc au douloureux travail intérieur d'acceptation de la perte et surtout de son irréversibilité. Pouvoir engager un processus de deuil suppose une séparation nette entre le mort et les vivants qui restent. Le deuil périnatal correspond à la séparation charnelle entre la mère et cet enfant. Dans le travail de deuil, on va en fait suivre, je dirais globalement, quatre étapes distinctes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience de la perte. À l'annonce du drame, du cataclysme, l'enfant est mort. Premier mot d'incrédulité, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Dans un complet déni initial, on se trouve confronté à des couples prostrés, en hébétitude, paralysie et effondrement, avec une incapacité à comprendre qui bloque toute activité psychique. Le sujet, père ou mère, veut revenir en arrière, faire comme s'il ne savait pas encore et que rien ne s'était produit. Suivi de cette prise de conscience initiale, on va se voir confronté à ce qu'on appelle, nous, le refus. C'est un état de choc avec souvent perte de sommeil, d'appétit, d'énergie, une immense fatigue, une volonté d'annulation, une révolte, la honte, la culpabilité qui s'accompagne bien sûr d'agressivité, de colère et d'hostilité, souvent tournée à l'encontre effectivement du corps médical. Il faut un responsable, et ça va isoler le sujet en deuil. Alors là, je m'arrêterai sur l'indicible malaise, comme je dis, des équipes médicales. Eh bien, c'est vrai que ces chambres-là sont évitées souvent quand il y a cette annonce, cette mort fœtale. On passe comme s'il y avait presque contagiosité, je ne sais pas. Peut-être aussi parce qu'on élude les réponses, on a les regards qui se dérobent, on n'a pas, je dirais, d'accompagnement bien précis. Il y a un total silence et une totale solitude autour de ces chambres, je dis. Et un malaise vraiment, effectivement, du corps médical qui lui aussi se sent coupable. Suivi de ce refus, on va enchaîner effectivement chez les parents ce qu'on appelle la dépression. Alors la dépression correspond à l'isolement, à la perte d'estime de soi et à cette solitude infinie. Lorsque les larmes apparaissent, le travail de deuil est sur le point de commencer. Plus que les larmes qui peuvent couler en silence, c'est la décharge des tensions qui va procurer un profond soulagement. Pourtant, donc, tout le monde ne pleure pas, pour des raisons souvent culturelles. Alors là, les hommes sont soumis à la loi de la virilité. Les émotions ne doivent pas les ébranler. Mais les pères sont très seuls, plus isolés, plus incompris, piégés par leur propre obéissance inconsciente aux injonctions de la société. L'homme est fort, il doit soutenir et épauler sa femme. Et c'est comme ça qu'on se rend compte souvent qu'on va demander à l'homme « Alors comment va ta femme ? Ça se passe bien ?» Mais jamais on lui dit « Et toi, comment tu vas ?» quoi. Ces valeurs, effectivement, d'homme fort et largement inhibitrices envers les manifestations de chagrin. On note une discrétion des pères. Leur effacement porte un germe inconscient, la négation de leur paternité et le trouble quant à leur virilité. Ils ne peuvent être amenés à croire ce qui se passe que parce qu'ils n'ont pas connu cet enfant, pas porté, pas ressenti au-dedans d'eux comme leur femme. On parle toujours d'une souffrance qui est moindre, que leur deuil est plus facile, plus rapide. Un des écueils dans lequel tombe la majorité des couples dans leur douleur et leur désarroi est celui de croire que l'autre souffre moins ou plus parce qu'il ne souffre pas de la même manière. Un homme retient communément davantage ses émotions. Il y a un réel décalage dans la façon de vivre l'événement entre le père et la mère, d'où effectivement des problèmes de couple engendrés un petit peu dans le devenir. L'expression du chagrin est souvent impossible face à un entourage qui ignore trop souvent l'existence de la perte, face à des proches qui, pensant bien faire, tentent de minimiser l'événement ou de dire des paroles rassurantes, du style « mais tu vas en refaire un très vite, n'y pense plus », tout ce qui accompagne effectivement ces pertes périnatales. Donc au contraire de soulager, toutes ces paroles vont éloigner encore plus la femme de son entourage. La peine doit s'exprimer, car c'est une étape indispensable au travail de deuil. Jean Allouche a dit « Moins aura vécu celui qui vient de mourir, plus sa vie sera restée une vie en puissance, plus dur sera le deuil. » Et une maman, l'autre jour aussi, a confirmé un petit peu ça en me disant une jolie phrase « La souffrance ne se mesure pas à la durée de la vie, mais à l'intensité de l'amour. » En suivant ce syndrome dépressif, effectivement, on va rentrer dans une phase d'acceptation. Alors la personne en deuil ne sera plus jamais, bien sûr, la même qu'avant. Son rapport à la vie non plus va changer. Seule l'acceptation, ressentie au fond d'elle-même, de la possibilité de jouir à nouveau de la vie, sera effectivement le signe d'un travail de deuil mené jusqu'à son terme proche. Il faut bien sûr savoir se donner du temps, et le temps me paraît indispensable, et je le répète souvent aux mamans, le temps fera l'effet effectivement escompté d'apaiser ta peine. Il faut à un moment donné se permettre de vivre, de revivre, de rire, d'être de nouveau projeté dans l'avenir. Le processus de deuil, bien sûr, est important pour l'ensemble du noyau familial, pour les enfants qui sont déjà là, présents, mais aussi pour le bien-être, bien sûr, de ceux qui viendront après la perte d'un bébé, afin qu'ils ne soient pas, bien sûr, ces enfants de remplacement. Alors, il faut savoir qu'effectivement, dans ces enfants de remplacement, hein, très souvent, c'était fait comme ça, eh bien, on donnait le prénom de l'enfant décédé à l'enfant qui arrivait après, et quand on ne lui donnait pas ce prénom-là, on l'appelait René. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de René, c'était renaissance, on l'appelait René parce qu'il arrivait effectivement après un enfant mort-né. René ou René et eux, bien sûr. Donc la plus grande complication en fait du deuil, eh bien, c'est d'être empêché de le faire. Comment faire son deuil de ce qui n'a pas existé? Comment se dire parent d'un enfant sans nom? Comment choisir de faire sienne une réalité sans visage? Comment refaire de la vie après avoir donné la mort? Donc ça, c'est effectivement dans l'accompagnement du deuil périnatal. Alors cet accompagnement, on le pratique effectivement très fréquemment. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 5000 décès, effectivement, donc par an d'enfants morts-nés au-delà de 22 semaines d'aménorrhée. Alors le premier point dans cet accompagnement, ça va être l'importance de la naissance. Alors j'ai une image assez représentative. Hein. C'est pas une image, en fait c'est un tableau qui fait partie de plusieurs conceptions. Mais elle m'a semblé, moi je pense, effectivement très, très forte hein, comme image, hein, mais très représentative entre effectivement la douleur, la souffrance exprimée, effectivement, la perte, l'enfant, la naissance, cette déchirure et cette blessure très importante. Donc cette importance de la naissance, c'est vivre pleinement les étapes successives qui entourent l'accouchement. Très très longtemps, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les femmes étaient anesthésiées totalement. Elles ne donnaient pas la naissance, entre guillemets, de cet enfant, elles étaient écartées de ce moment, comme s'il y avait un blanc, une coupure, un vide, un néant à nouveau, c'était du non-dit tout ça. Or maintenant, on leur propose bien sûr de vivre les étapes de l'accouchement, phase après phase. La péridurale est souvent effectivement un moyen, je dirais, d'atténuer peut-être la douleur physique, pour que la souffrance psychologique puisse y trouver une place moindre, je dirais. Mais il y a des femmes qui veulent vivre l'intensité de la douleur physique pour pouvoir effectivement aussi surmonter cette douleur psychique. Donc je dirais qu'on les accompagne dans leurs demandes, péridurales, pas péridurales, mais les étapes de l'accouchement vont être vécues partie après partie, effectivement. Dilatation, poussée, elles poussent vraiment leur enfant. Donc ça va être permettre la mise au monde donc d'un enfant, effectivement, peut-être mort, mais une mise au monde réelle. Et surtout aussi, ça va être la naissance d'une mère et d'un père. On a trop souvent effectivement l'impression que puisque l'enfant n'est pas vivant, donc il est né mort, eh bien elle n'est pas mère, il n'est pas père. C'est une carence énorme pour eux et ils ont besoin d'un témoignage fort de cette arrivée au monde, effectivement, et qu'on leur dise bien qu'il est le père et quelle est la mère de cet enfant. Il faut organiser autour donc un morceau d'histoire de vie vécue, donc au travers de cette grossesse, de l'accouchement et de la mort de cet enfant. Ça va être aussi dans l'organisation, je dis, du face-à-face avec ce bébé. Le tenir dans les bras, le photographier, mais la suggestion de voir ou toucher l'enfant mort après l'expulsion peut peut-être sembler intolérable et contraignante. Or, l'expérience montre que jamais une femme n'a pu regretter d'avoir vu son enfant pourvu qu'elle ait pu faire sienne cette proposition ainsi suggérée. Par expérience, je peux vous dire que dans un premier temps, quand on leur apporte l'information qu'effectivement cet enfant peut être pris, porté, vu, il y a toujours un refus. Premier, c'est le refus. Non, je ne pourrai jamais. La peur de la mort, la peur de cet enfant né sans vie, la peur de ce qu'on peut imaginer au-delà de la réalité. Et dans un deuxième temps, il faut savoir que ces enfants sont toujours gardés un petit moment auprès des équipes médicales, donc toujours un petit peu un moment au niveau des salles d'accouchement, de manière à leur permettre, je dirais, cette réflexion, que ça mûrisse. Mais je dirais presque dans la totalité des cas, la maman, entre 24, 48 heures, voire 3 jours, va demander à venir voir son enfant, de l'accompagner. Alors, je dirais aussi qu'il y a une approche scientifique du corps actuellement aussi, c'est cette fameuse biologisation de la mort, hein, comme j'appelle, qui va désacraliser effectivement et qui ôte tout aspect symbolique au cadavre, dont on souhaite se débarrasser très rapidement. Mais on le sait bien, bah, le corps mort est l'objet sur lequel se fixent tous les prémices du travail de deuil. Comment pourra-t-elle faire le deuil d'un enfant qu'elle n'a pas vu ? L'importance aussi d'utiliser le prénom, le choix du prénom, leur demander, effectivement, nommer cet enfant, l'identifier. Et l'importance aussi, moi je dis toujours, du bracelet d'identité. C'est bête, ce petit bracelet qu'on leur met au poignet, effectivement, à tous ces enfants nés, vivant la plupart du temps, mais pourquoi le bébé né effectivement sans vie n'aurait-il pas droit aussi à ce petit bracelet d'identité qui stipule son passage ? Donc ce bracelet, les mamans le gardent très proche d'elles, dans leur portefeuille, pas loin, c'est quelque chose qu'elles gardent bien contre elles. Alors bien sûr, situer aussi l'enfant dans sa généalogie et dans sa fratrie. De là aussi, la demande de certains parents, que les grands-parents puissent être présents, que les enfants aussi puissent dire un dernier adieu, donc le situer dans la généalogie. Ensuite, il faut ce qu'on appelle envisager l'autopsie, moment délicat et difficile, où effectivement ce petit corps va être soumis, je dirais, à la médecine, mais il est intéressant aussi d'essayer de trouver des réponses pour rassurer les parents pour éventuellement une prochaine grossesse. Et puis bien sûr, au-delà de ça, ça va être permettre les rituels. Alors les rituels, c'est l'inscription, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, du bébé à l'état civil, organiser la possibilité aussi d'un adieu, qu'il soit religieux ou autre. Hein. Et là aussi, il y a, je dis, des équipes prêtres, des pasteurs, qui peuvent aider effectivement à ce cheminement, cette vie dans l'au-delà peut-être. Donc ça peut rassurer les parents. Et puis l'envoi de faire-part qui peut être fait aussi, et de temps en temps, ben, des parents qui ont eu ce choc, ce deuil, effectivement, autour d'un enfant mort-né, vont envoyer un faire-part. Alors j'en ai un exemple ici qu'on m'avait adressé il y a 2 ans. Et bien voilà, ça avait été intitulé comme ça. « Après 9 mois d'attente, nous aurions voulu vous présenter la petite frimousse de Félix, mais il nous a quittés le 6 septembre 2003, avant même d'avoir vu le jour. » Ça permet aussi, je dirais, d'atténuer les souffrances du retour qui sont colossales quand il faut justifier auprès de l'entourage la non-venue, la non-présence de ce bébé. Donc au moins on informe et puis les questions viendront, mais beaucoup plus, je dirais, facilement. Alors les funérailles ensuite. Eh bien, elles marquent dans la réalité l'expression ultime d'une séparation et sont accompagnées de rites sociaux, laïques ou religieux. Ces rituels qui semblent faciliter le retour du mort dans la sphère symbolique favorisent le deuil. Ils se feront avec des souvenirs partagés. Lorsqu'il s'agit de la mort d'un fœtus, celui-ci, plus qu'un passé de vie commune, donc représente tout un avenir anéanti. Le deuil est très très compliqué, car il faudra renoncer au fœtus avant même de l'avoir connu. L'importance des rituels de passage, qui permettent à chacun d'avoir une représentation sociale des événements, donc actuellement dans notre société, dans son formidable essor de vie, de progrès et de liberté individuelle, n'a pas su renouveler les rites. Finalement, peut-être que l'essentiel serait d'apporter toute notre attention, pas seulement à la vie, mais aussi à la mort qui en fait partie et qui se trouve rejetée, éliminée dans une dimension privée et affective où l'individu reste seul, confronté à son deuil et à sa douleur. Suite aux funérailles, effectivement, je dirais, eh bien, il faudra évoquer toujours avec le couple la peur d'une éventuelle grossesse. Alors, les sages-femmes. Ben, les sages-femmes sont alors toujours présentes à ce carrefour d'émotions intenses pour servir d'exutoire, de consolation. Nous sommes celles qui prenons le temps de parler, de leur raconter cet enfant qui est, mais ne sera plus. L'accompagnement dans leur processus de deuil est alors complet, douloureux, mais toujours porteur d'espoir. Et laissez-moi vous citer la réflexion d'une maman à ce sujet. Sans vous, nous n'aurions jamais eu le courage de connaître notre bébé. Nous n'oublierons jamais le soir où vous nous avez porté notre fils et combien cela nous a apaisés. Nous avons contemplé notre petit garçon et réalisé combien nous l'aimions. Maintenant, nous pouvons le pleurer plus sereinement. Grâce à vous, il a retrouvé sa place dans notre famille. Hop. En gage de conclusion, je terminerai par ce petit poème d'une maman orpheline qui s'appelle Marie. Je vous en prie, ne me demandez pas si j'ai réussi à le surmonter, je ne le surmonterai jamais. Je vous en prie, ne me dites pas qu'il est mieux là où il est maintenant, il n'est pas ici auprès de moi. Je vous en prie, ne me dites pas qu'il ne souffre plus, je n'ai toujours pas accepté qu'il ait dû à souffrir. Je vous en prie, ne me dites pas que vous savez ce que je ressens, à moins que vous aussi vous ayez perdu un enfant. Je vous en prie, ne me demandez pas de guérir. Le deuil n'est pas une maladie dont on peut se débarrasser. Je vous en prie, ne me dites pas que Dieu n'inflige pas plus que ce que l'homme peut supporter. Je vous en prie, dites-moi simplement que vous êtes désolé. Je vous en prie, laissez-moi parler de mon enfant. Je vous en prie, mentionnez le nom de mon enfant. Je vous en prie, laissez-moi simplement pleurer.